costard. T'as pas eu le temps de t'expliquer. Allez hop, tu t'es retrouvé embarqué en garde à vue. En garde à vue. En garde à vue. En garde à vue. T'es pas prêt d'en sortir. T'es un peu trop bronzé, mais pas.
Bonsoir, c'est Ondes Noires, une émission donc sur l'actualité du polar présentée par la Noiraude. Avec, pour commencer cette première partie, nous avons la chance d'avoir au téléphone un auteur de BD, de la BD polar, de la BD noire bien entendu, qui s'appelle Jean-Christophe Paul.
Jean-Christophe Paul, bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, Jacques vient de dire que vous étiez un auteur de BD. Est-ce que ça vous convient quand, quand on vous demande votre métier, qu'est-ce que vous répondez ?
Oui, auteur convient parfaitement parce que dans le métier de la bande dessinée, c'est vrai qu'il y a plusieurs professions. On peut être scénariste, on peut être dessinateur, et auteur signifie que qu'on fait l'ensemble des deux parties principales de la BD.
Alors, deux actualités, puisque viennent de paraître deux albums, Durififi chez les Clébards, donc à la boîte à bulles, et puis Une âme à la mer. Deux éditions, ça y est, j'ai perdu les éditions Carabas, pardon.
Oui.
Alors, moi, je me suis plus intéressée, je dois le dire, à Durififi chez Clébard. Et donc, j'aimerais que vous nous situiez un petit peu, que vous nous racontiez un petit peu le début de l'histoire.
Oui, je vous entends assez mal, hein, mais ah. je tends bien l'oreille.
Merci de l'effort.
D'accord. Oui, en ce qui concerne le Rififi chez Clébard, c'est une histoire qui se situe à Sarpedone, qui est une ville fictive. C'est un peu l'idée que j'ai de la ville d'une façon générale. D'ailleurs, l'ensemble de mes bandes dessinées se passe en général dans ce lieu. Et là, je m'intéresse à la communauté animale de Sarpedone qui vit en parallèle à la communauté humaine. Donc on va suivre dans cette histoire Dick, un chien errant, qui est un petit clébard, qui a des rêves tout à fait accessibles, des rêves liés à l'amour qu'il porte à sa chérie. Et puis il va être considéré comme étant l'auteur d'un meurtre. Et à ce moment-là, sa vie va basculer. Donc, il va devoir par lui-même se sortir de tout cela et devenir un héros et faire avec cette nouvelle situation pour lui.
Alors, devenir un héros, ça va être quand même très très difficile pour ce chien parce que au départ, c'est quand même, un loser, on peut dire un petit peu ça.
Il est un peu perdu dans la vie, on va dire c'est le pauvre gars quoi. Mais
le clébard quoi.
Voilà, c'est vraiment le clébard, le chien qui traîne, qui renifle les poubelles, qui vivote comme ça. Et il a malgré tout des petits rêves de liberté. Hein. On voit au départ qu'il a envie de sortir de cette ville, de sortir de cette vie, mais sans vraiment trop savoir pourquoi. Et il va devenir un héros un peu malgré lui, c'est vrai. Et du coup, en vivant cette aventure, il va s'apercevoir aussi que les amours sont pas très solides, que les amitiés sont pas terribles non plus face à l'adversité, et que les alliés qu'il va trouver sont pas ceux qu'il aurait pu penser avoir. Du coup, tout ça va le faire réfléchir à sa situation et le fait est que ça va rester un questionnement pour lui de savoir ensuite quelle vie il peut avoir après être devenu ce héros.
Effectivement, ce que j'aime bien, c'est ce que vous avez dit sur l'esprit libre, parce que c'est ce qui va lui permettre, lui, de découvrir la vérité, contrairement aux autres qui sont embringués dans leurs idées toutes faites et dans leur petite vie tranquille. Peut-être un peu plus heureuse que la sienne, mais disons qu'ils n'ont pas de chemin de traverse, finalement.
Excusez-moi, j'ai pas très bien entendu.
Bon, on va repartir sur autre chose. Ce qui est intéressant, c'est le fait d'avoir utilisé des chiens, de faire une sorte de fable animalière en fait, alors que cette histoire aurait très bien pu avoir des êtres humains comme protagonistes.
Oui, c'est vrai. C'est difficile en fait pour moi de bien répondre à cette question parce que le fait est que dans la plupart de mes bandes dessinées, et Une âme à la mer chez Carabas est peut-être l'exception qui vient confirmer la règle, dans la plupart de mes bandes dessinées on trouve des animaux. C'est-à-dire que les animaux ont leur place au même titre que les humains, ce sont des animaux entre guillemets réalistes, hein, ils n'ont pas d'habits comme les animaux de Walt Disney ou d'autres. Mais ils ont vraiment leur place dans notre monde, la même place que nous. Et bien souvent, je fais des personnages humains qui vont parler aux animaux. Enfin, vraiment, les animaux vont se mêler à cette vie humaine. Ici, on est bien dans un monde d'humains parce que c'est une ville humaine. On voit des affiches, on voit des voitures passer. Et c'est vrai que, par contre, on voit pas du tout d'humains passer dans cette histoire. Parce que j'imaginais que les animaux avaient vraiment une vie parallèle, un peu cachée, mais avec une organisation sociale et politique qui effectivement ressemble un peu à la nôtre. Mais j'aimerais pouvoir développer ça par la suite et expliquer un peu plus comment ils s'organisent. Il y a des petites différences par rapport à notre propre organisation. Mais ce choix... C'est pas vraiment un choix. Je sais pas si j'ai effectivement fait un choix ou si les choses me viennent comme ça. J'aime beaucoup utiliser les animaux. Et je pense que il y a aussi de ce fait une distance qui se crée entre l'histoire racontée et puis le fait que ce soit des animaux. Et cette distance, peut-être, c'est peut-être celle-ci qui m'intéresse de. Et qui fait mon choix dans ça. Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi parce que je sais pas exactement la raison profonde. Sinon que j'ai vraiment cette impression qu'on a tous ici la même place, c'est-à-dire du chien à l'humain en passant par le lombric, en termes, je veux dire tout simplement de place sur la terre. Et à partir de là, je crois que j'ai considéré un peu d'une façon égale tous ces animaux. Donc ça me dérange pas de les mêler, de les mêler aux hommes et qu'ils aient leur propre rôle.
Et qu'ils aient une vie presque un petit peu anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on calque un petit peu une société humaine.
Oui, là pour le fait, oui, c'est un peu calqué sur ce qu'on vit, hein, c'est-à-dire qu'il y a des... on découvre des hommes politiques un peu pourris, on découvre des... Ça pourrait être des gens. Je crois que d'ailleurs, lorsqu'on commence à lire cette bande dessinée, peut-être que très vite, on oublie qu'il s'agit de chiens, en fait. Hein. Dick, finalement, est certainement très humain. Il est peut-être plus humain, par exemple, que Superman. Hein. Mmh. Il est moins lisse, il a plus de failles.
Oui, puis il a une histoire plus complexe, oui, moins lisse. Et justement, c'est un petit peu pour faire oublier de temps en temps qu'on s'adresse à des chiens, que vous avez très souvent des gros plans sur les yeux de ces différents cabots.
Oui.
Je suis en train encore de la reparcourir et c'est vrai qu'il y a très souvent des gros plans. Alors vous disiez tout à l'heure que vous aviez pas vraiment choisi de faire une bande dessinée avec que des héros canins, on va dire. Quand vous avez l'idée d'une bande dessinée, est-ce qu'on part d'un dessin ou est-ce que c'est d'abord l'histoire, d'abord le scénario qui vient en premier?
Je crois que tout est vraiment très mêlé. C'est ce qui fait la particularité de la bande dessinée. C'est-à-dire que le texte et le dessin sont liés, se renvoient la balle. Une idée, ça peut être une idée simplement. Bon, lors de mon précédent album qui s'intitule Le Chant du Corbeau. Où ça démarre avec un corbeau solitaire qui est perché sur un sur un poteau téléphonique. C'est vraiment cette première image que j'avais en tête. Et peut-être lorsqu'on prend la voiture et puis dans les vitres, ça défile un peu comme des images, hein, comme lorsqu'on prend le train. On peut imaginer des tas de choses. Et c'est vrai que j'avais vu ce corbeau perché sur ce poteau téléphonique. Et cette image m'est restée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à ce corbeau pour être tout seul comme ça perché? À quoi il pense? Et à partir de là, les choses se sont déroulées. En ce qui concerne le Rififiche et les clébards, avec ce chien Dick, je crois qu'au départ me vient une image de ce chien qui traîne, et je me pose la question de savoir pourquoi il traîne, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses rêves. Je me laisse aller lorsque j'écris sous forme de storyboard. Je me laisse un peu aller dans la peau du personnage et dans la peau des... Et je vais dire, en suivant les actions, en me réservant aussi des surprises, je me laisse aller à l'histoire qui se déroule. Si bien que il peut m'arriver d'avoir une idée très précise, me dire j'ai envie de parler de ça, de développer tel thème, et mes personnages m'entraînent parfois au-delà de ce thème. Ça, c'est assez fréquent. Voilà, pour essayer de répondre au mieux, hein.
Ah oui, non, mais c'est une très jolie réponse, et en plus, elle est d'autant plus intéressante que c'est une réponse que nous font assez régulièrement les auteurs des romans noirs, et je suppose les auteurs de la littérature en général, puisque tout ça, ce sont ce qu'on appelle des genres littéraires, c'est-à-dire que parfois, on est un petit peu dépassé par la vie du personnage et qui nous emmène plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ.
Oui, parce qu'il y a deux façons de concevoir une histoire. On peut concevoir une histoire autour d'une intrigue. À ce moment-là, c'est l'intrigue qui va primer, et les personnages, eux, vont plus être des marionnettes au sein de cette intrigue. Je pourrais citer, par exemple, Agatha Christie. Elle avait un peu cette façon-là de concevoir le roman, mis à part Hercule Poirot, qui avait beaucoup de charisme. C'est vrai que tous les autres personnages étaient un peu des pantins, allait et venait en fonction d'une intrigue. Et l'autre façon d'écrire une histoire est plus de s'approprier les personnages, leur psychologie, leur état d'âme, leur fonction dans la vie, comment ils reçoivent les choses. Et à ce moment-là, même si intrigue il y a, puisque dans le Rififiche avec les barres, malgré tout, il y a une intrigue avec un coupable, avec des meurtres, etc., du coup, c'est le personnage qui l'emporte. C'est important pour moi de toujours m'intéresser au personnage plus qu'au reste. Oui. Mmh.
Alors justement, vous les mettez en scène, et ce qui m'a vraiment frappé et plu dans cette bande dessinée, c'est aussi, je sais pas comment on peut appeler ça, la mise en page des différents dessins au niveau d'une page. C'est-à-dire qu'il y a pas une uniformité. On trouve des fois un petit peu des cases, je suppose que ça s'appelle comme ça, hein, c'est ça, les cases. Donc un petit peu de déstructure. Est-ce que pour vous ça apporte quelque chose en plus à l'écriture? Est-ce que ça, ça complète l'écriture en amenant du mouvement, une force à certaines scènes?
Oui. Alors ça c'est vraiment un aspect de la bande dessinée qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que effectivement je conçois la bande dessinée comme une forme d'écriture, c'est-à-dire que finalement c'est assez rare que je fasse un dessin juste pour faire un dessin, hein. C'est quelque chose que j'ai fait petit mais je fais plus aujourd'hui. C'est toujours dans le sens de raconter quelque chose. Donc on a plusieurs éléments qui nous portent pour raconter une histoire. Bien sûr, je vais dire la description de l'action ou des décors qui là du coup est souvent simplement retranscrit par le dessin proprement dit. Donc on suit une action, on voit où ça se passe. Le texte bien sûr apporte beaucoup à côté, mais il y a d'autres éléments dans la bande dessinée qui portent cette écriture particulière. Le trait déjà qu'on va utiliser, qui peut être lisse, qui peut être vibré, qui peut être charbonneux pour donner une ambiance, et puis effectivement les cases, à la fois leur taille bien sûr, mais aussi leur forme et les cases entre elles, comment elles se comportent, comment elles s'amusent l'une de l'autre. Ça peut donner un mouvement, bien sûr des effets de mouvement, mais encore une fois, avec la bande dessinée, on est tout de même assez loin du dessin animé. Donc le but n'est pas d'essayer de recréer à tout prix un mouvement. Hein. Mais bon, malgré tout, il peut y avoir des cases qui sont assez énergiques, hein, qui donnent de l'énergie, mais elles peuvent aussi donner une émotion.
Oui, c'est exactement le que j'allais employer.
Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Même si c'est intéressant parfois d'utiliser un cadre classique avec, pour reprendre un exemple bien connu, la façon qu'Hergé avait de travailler avec quatre bandes par page, c'est intéressant et parfois peut-être plus difficile finalement pour donner une émotion parce que ça reste assez linéaire. Et ce que j'aime aussi et que j'ai utilisé dans le Rififi, c'est des changements de rythme assez importants avec justement parfois une page qui va être très tranquille et puis soudainement tout éclate comme des bris de verre, ça me semble aussi intéressant, ces changements de rythme que j'utilise, qui sont les mêmes, qui m'inspirent pas mal à ce niveau.
C'est un petit peu d'ailleurs ce que j'allais dire, qui était plus un commentaire qu'une question. C'est-à-dire que souvent on parle d'un texte totalement écrit en disant qu'il y a une musique derrière les mots. Et c'est vrai que là, très souvent, on pense à une musique derrière les dessins et derrière les personnages. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de l'autre bande dessinée, où là, les protagonistes, les héros sont totalement humains,
oui.
Mais placés aussi dans un contexte très douloureux, puisque le héros, enfin, on va plutôt dire le personnage principal, Terry, il n'est pas très très heureux.
Si, oui, c'est vraiment, c'est peut-être la quintessence de la douleur. En fait, il a une vie en dents de scie, Terry. Il y a des moments où ça va, et puis des moments où ça va moins bien. Et il semblerait que des gens qu'il aime lui font mal malgré tout par leur façon de traiter Terry. Et une première fois dans sa jeunesse, dans son adolescence. Ces gens vont mourir et du coup lui va renaître et va aller bien. Et puis il va se passer des choses dans sa vie qui font que il va à nouveau moins bien et même très très mal, comme si la vie s'acharnait un petit peu sur lui. Et peut-être que c'est un nouveau cycle de mort qui s'approche de lui et qui éventuellement peut le faire renaître, mais voilà, c'est une histoire qui est effectivement très noire, et c'est un thriller en trois parties, avec une intrigue assez forte pour le coup, mais sans oublier la psychologie des personnages. C'est une bande dessinée, contrairement au Rififi qui est dénué d'humour, enfin, même si un humour qui de temps en temps apparaît, c'est un humour très très jaune, très très douloureux, alors que dans le Rififi, il y a de temps en temps quand même un peu de légèreté. Je pense qu'on peut aussi s'amuser. C'est une approche très différente, oui.
Plus caustique. Et je reviens. Donc là, c'est le tome 1 qui vient de paraître. Deux autres sont prévus. Ce qui me ramène une autre question pour du Rififi chez les Clébards. Est-ce que Dick va revenir? Est-ce que vous avez envie, comme c'est beaucoup d'auteurs de romans noirs, d'en faire un personnage récurrent?
Alors, en fait, disons que à la fin du livre, Dick reste sur un questionnement. Il ne sait pas s'il doit avancer ou reculer.
Oui, il y a une fin très ouverte.
J'en dis pas plus parce que je laisse le soin au lecteur de découvrir le pourquoi. Si j'ai fait ça, c'est parce que moi-même, je n'ai pas la réponse à sa question. Et je n'avais pas envie de la donner, pour le coup. Si je fais un second tome avec Dick, forcément, je serai obligé de donner une réponse à ce questionnement. Or, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, et donc je serai bien incapable de trouver une suite à la vie de Dick, pour le moment, en tout cas. Mais ceci dit, il est dans l'idée d'éventuellement faire d'autres volumes en reprenant cet univers, en reprenant les personnages secondaires et en créant de nouveaux personnages principaux, et donc malgré tout de faire vivre cet univers. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait bien. J'ai d'ailleurs une bonne idée, mais j'attends de voir aussi s'il livre un peu de succès, parce que il faut que pour pouvoir faire un deuxième volume, il faut tout de même que le premier ait une résonance auprès des lecteurs, et ça, c'est pas moi qui le déciderai. Mais sinon, je suis prêt.
Ben, on espère, parce que en tout cas, nous, on recommande cet album très chaudement. C'est un objet, plutôt, on peut dire, puisqu'il y a plein de choses dedans qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Avant de terminer l'interview, on va passer un petit morceau de musique de System of a Down. Oui. C'est vous qui l'aviez choisi. Est-ce que vous auriez un mot à dire sur ce groupe?
Ah ben, je suis content que vous ayez pu que vous puissiez le passer. C'est une musique que j'aime beaucoup. C'est pas la seule musique que j'écoute. C'est vrai que c'est une musique qui est dure, mais qui en même temps pleine de sensibilité. Comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport à ces changements de rythme que j'aime utiliser dans mes bandes dessinées, je trouve très intéressant ce groupe qui est un groupe d'Arméniens made in New York. Ils pratiquent vraiment tout le long de leurs chansons des changements de rythme. Ils s'amusent beaucoup avec sa voix, tantôt dure, tantôt douce. Et il y a des mélodies qui sont très belles, très poignantes. Et je travaille assez régulièrement avec ce groupe, entre autres.
Alors en fait, j'avais dit que c'était la dernière question, mais j'ai encore une question à vous poser finalement.
Oui.
Donc on vous a découvert donc avec ces deux bandes dessinées qui sont des BD très noires et très polars. Est-ce que d'un autre côté, vous lisez beaucoup de polars et que disons qu'une légère inspiration vient de ce goût pour le roman noir?
Non, en termes de littérature, j'aime beaucoup de choses, c'est très très étendu. Et donc, j'aime aussi le roman noir, mais je ne suis pas un lecteur fou de roman noir, parce que j'aime aussi Vian, j'aime Jules Verne, j'aime...
Qui a écrit du roman noir?
Pardon?
Boris Vian, qui a écrit du roman noir sous un pseudo?
Oui, Boris Vian a écrit du roman noir, mais je pensais pas à Suzanne, je pensais à Vian, qui était plus... plus en couleur que Sullivan, mais oui, effectivement. Mais sinon, oui, ma dernière rencontre, je vais dire, c'est James Lee Burke, par exemple, dont je viens de terminer un livre, que j'ai effectivement adoré. Et il y en a d'autres, il y a des tas de gens que j'ai lus comme ça, et j'aimais bien aussi, moi, le policier classique. Comme les Arsène Lupin de Maurice Leblanc, les bouquins de Gaston Leroux, etc. J'aimais beaucoup ça aussi. Mais j'aime cette littérature franchement noire, qui est plus effectivement axée sur les personnages que sur les intrigues, encore une fois. Et c'est vrai que je découvre au fur et à mesure, mais je lis un peu de tout, et je suis lecteur aussi de science-fiction. Et parfois dans les romans de science-fiction, on retrouve, notamment dans ceux de Philip K. Dick, on retrouve un peu les personnages du roman noir, des gens perdus qui tâchent de se débrouiller un peu comme ils peuvent.
Tout à fait. Jean-Christophe Paul, merci beaucoup de vous être joint à nous. J'espère à bientôt.
Et donc on va écouter un petit morceau donc de System of a Down qui s'appelle Radio Vidéo.
They take